Nous aimons, dans ce temps de célébration gospel, qu'il y a une fois par mois, avoir non seulement un temps fort avec la chorale, les chants de gospel, comme le nom l'indique, mais les gospels aussi dans le sens du message du gospel. Et nous aimons aussi avoir un message particulier où nous posons nous répondons à l'une des questions les plus posées sur la foi chrétienne. Et puis il arrive qu'on ait d'autres sujets, et j'aimerais apporter un sujet qui me paraît important, c'est comment encourager une personne qui souffre. Et je vais l'aborder sous l'angle de souffrance extrême. Et je vais avoir viser deux choses, à la fois quelqu'un qui souffre d'une perte d'un être cher, et quelqu'un qui souffre plutôt de... Ben voilà, il vient d'apprendre qu'il a une maladie grave, et comment encourager quelqu'un qui passe par une maladie grave. Et donc, voilà, les questions sont posées. Comment encourager une personne qui vient de perdre un être cher? Et comment encourager une personne qui passe par une maladie grave? Comment encourager une personne qui est abattue et totalement découragée? Très souvent, face à une personne qui passe par une extrême souffrance, nous avons du mal à trouver les mots, à savoir quoi faire. Je suis le seul ? On est plusieurs à se reconnaître. Plusieurs personnes vont se sentir disqualifiées. Elles ne diront rien, mais agir ainsi fera mal à la personne qui souffre. D'autres essaieront de dire quelques mots d'encouragement, mais seront très maladroites. Et leur manière de faire, parfois, va amener la personne à avoir mal aussi, en entendant ou en voyant l'attitude de notre attitude. D'autres vont faire beaucoup de choses, aider de manière pratique, dire beaucoup de choses pour que la personne relativise. Mais là aussi, la personne qui souffre peut-être sera blessée. Très compliqué, n'est-ce pas? Comment encourager quelqu'un qui souffre? Tout d'abord, il est important de rappeler ce matin que Dieu attend de toi et de moi que nous encouragions ceux qui souffrent. Ce n'est pas optionnel, ce n'est pas quelque chose, je le fais parce que j'ai envie ou j'ai pas envie, mais si je suis chrétien, que j'appartiens à Dieu, Dieu attend de toi, de moi, en fait de tout être humain, que nous encouragions ceux qui souffrent. La Bible dit ceci, réconfortez ceux qui sont découragés. Et dans une autre traduction, il est dit ceci, consolez ceux qui sont abattus. À Thessaloniciens 5. Je vais maintenant proposer plusieurs points pratiques. Et certains points que je prendrai sont facilement praticables pour toute personne que nous rencontrons qui passe par la souffrance. Mais d'autres points que je donnerai, ça nécessitera d'avoir une relation plus profonde avec la personne pour aller jusque-là. Et donc les réponses que je donnerai aussi sont des réponses bibliques que la Bible nous propose. Premièrement, la première chose que je vous propose, c'est sois convaincu que Dieu peut réconforter cette personne. Tout doit commencer par là. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. » L'apôtre Paul, qui a écrit ces lignes, a connu de terribles souffrances. Il dit dans cette même lettre, quelques chapitres plus loin, chapitre 4, versets 8 et 9, « Nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. » C'est impressionnant, hein, ce texte. Paul, qui a beaucoup souffert, on le voit ici, il a vécu pas mal de choses, a expérimenté les réconforts de Dieu. Voilà pourquoi il est capable de louer Dieu, parce qu'il réconforte dans toutes les situations. Pas dans certaines situations, mais dans toutes les situations. Alors, ce matin, sois convaincu, toujours convaincu de cette vérité. Pour aider une personne qui souffre, Dieu réconforte toujours ceux qui souffrent. Et de là, ça doit nous pousser à la prière, prier Dieu, que Dieu agisse dans la personne qui souffre, et prier aussi que Dieu nous utilise pour être un instrument entre les mains de Dieu, afin de consoler, encourager, relever celui qui en a besoin. Deuxièmement, pleurer avec la personne. Pleure avec elle. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 15, « Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. » La Bible nous propose ici de pleurer pour celui qui souffre. C'est assez surprenant, n'est-ce pas? Dans une situation dramatique où on aurait plutôt envie de dire qu'une personne dans la faiblesse a besoin de quelqu'un de fort qui ne va pas pleurer. Eh bien, on se trompe. Dans le livre qui s'intitule « Du point de vue du corbillard », un père a écrit sur le chagrin suite au décès de 3 fils à différents moments de sa vie. C'est beaucoup. Je cite. Voici ce qu'il dit. « J'étais assis, terrassé de douleur. Une personne est venue et m'a parlé des façons d'agir de Dieu, pourquoi c'était arrivé, de l'espoir au-delà de la tombe. Elle ne cessait de parler, disant ce que je savais être vrai. Ma seule réaction était de souhaiter qu'elle s'en aille. Finalement, elle est partie. » Donc ça, c'est point de soulagement. Mais écoutez la suite. « Quelqu'un d'autre est venu et s'est assis à côté de moi. Il n'a rien dit. Il n'a posé aucune question. Il est juste resté à mes côtés pendant plus d'une heure. M'a écouté quand j'ai parlé, m'a répondu brièvement, a simplement prié et m'a quitté. J'étais touché, j'étais réconforté, j'ai détesté le voir partir. » Voilà un bel exemple ici de ce que veut dire pleurer avec ceux qui pleurent. Dans une extrême souffrance, ce n'est pas le moment de faire des leçons sur la souffrance, sur le Dieu qui console, sur le paradis dans sa présence, sur la paix qu'il peut donner, que nous pouvons expérimenter en temps de crise, etc. Les leçons de morale ne sont pas tout de suite, en tout cas ne sont pas en plus du tout les bienvenues. Je me rappelle avoir dit à une personne qui souffre, « Dieu est grand ». Et sa réponse à mon affirmation était très froide, car elle souffrait terriblement. En l'entendant, ça m'a beaucoup repris. Aider une personne qui souffre demande beaucoup de sagesse, beaucoup de sensibilité, beaucoup de tact. On ne le dira jamais assez. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent, c'est-à-dire exprimer de l'empathie. Ce n'est pas juste pleurer avec ceux qui pleurent, on est là, il est en train de pleurer avec la personne. Hein? Sinon, on n'a rien compris au texte. Même si il est vrai qu'on retrouve des personnes qui pleuraient. Et assez surprenant, à l'époque, les Juifs, quand ils manifestaient leur douleur, c'était très fort encore aujourd'hui, avec des lamentations. Mais on embauchait, on appelait des personnes qui étaient du métier pour pleurer, des pleureuses professionnelles. Alors, je ne sais pas s'il y a encore ce métier aujourd'hui, mais c'est assez particulier quand même. Hein? Donc, mais on ne parle pas de ça. Mais vous connaissez le verset le plus court de toute la Bible. Jésus pleura. Jésus était capable de pleurer alors qu'il savait qu'il avait la victoire sur la mort. Mais il voit Lazare mourir, enfin il l'entend qu'il est mort, et quand il arrive, il voit la tristesse des autres, et il en est touché, et il pleure. Un bel exemple. Mais ça va jusqu'à, c'est plus profond que juste pleurer, c'est l'empathie, exprimer de l'empathie. Pour certains, cela est naturel, pour d'autres, cela demande un certain effort de se mettre à la place d'autrui et de percevoir ce qu'il ressent. Jésus nous aide bien avec ce qu'on appelle souvent la règle d'or. Vous vous rappelez ? Question pour un champion. Faites, je l'ai dit de manière négative, mais faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Écoutez la suite, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Et quand on entend ça, ding, on pense à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, puis on pense à l'autre, aimer son prochain comme soi-même. Et c'est comme une traduction, ici, de ce que veut dire aimer son prochain comme soi-même, s'identifier à l'autre. Dans toutes nos relations, nous devrions sans cesse faire cet effort de se mettre à la place de l'autre, de faire aux autres ce que nous aimerions qu'ils fassent pour nous. Et j'ai toujours été touché par ce texte très fort dans la Bible qui dit ceci, pour nous aider à comprendre qu'il nous faut aussi ressentir, faire l'effort de ressentir la souffrance des autres. Regardez Hébreux chapitre 13, verset 3. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte, mais il est extraordinaire. Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez enchaînés avec eux. Comme si, c'est fort. Et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. Waouh! On pourrait dire aussi, ayez le souci de ceux qui souffrent d'une maladie grave, comme si vous étiez vous-même malade avec eux. Et de ceux qui passent par le deuil, comme si vous aviez vous-même perdu un être cher. C'est fort. Pleurer avec ceux qui pleurent, c'est s'identifier à celui qui souffre. Je ne dis pas souffrir plus que l'autre. Mais nous devons éviter de dire, parce que quand on parle de s'identifier, il peut y avoir des phrases qu'on sort. C'est par exemple cette phrase, « Je comprends ce que tu ressens ou ce que tu traverses. » Agir ainsi peut faire croire à l'autre que nous minimisons sa souffrance. Et ça n'aide pas. Même si nous sommes passés par la même souffrance, on peut dire cela, mais il faut le dire avec des pincettes, il faut le dire avec sagesse. Pleurer avec ceux qui pleurent, c'est aussi écouter. C'est la chose la plus importante à faire quand une personne souffre, en fait. Nous devons écouter sans répondre. Écouter sans préparer mentalement ce que nous allons dire. Qu'est-ce que je vais dire après ça? Il faut vraiment faire silence, laisser la douleur de l'autre s'exprimer, sans la freiner, sans la diminuer. Tu entendras très certainement des choses choquantes de la personne qui souffre. Dieu n'est pas fidèle. Où est son amour? Pourquoi m'a-t-il abandonné? Pourquoi n'a-t-il pas épargné la vie de mon père? Pourquoi m'a-t-il laissé dans la maladie? J'en ai marre. Je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu. À quoi ça sert de vivre? Etc. etc. La tendance de certains chrétiens en entendant des choses, de telles choses, c'est de très vite freiner la personne, de la reprendre pour la consoler. Non, Dieu est avec toi. Dieu. Et en faisant ça, il y en a qui se mettent à faire quelques leçons de morale, quoi. La personne a vraiment besoin d'exprimer sa douleur. Nous ne devons pas la freiner. Les nombreuses lamentations dans la Bible nous rappellent que Dieu laisse ceux qui souffrent exprimer des prières de doute, des prières de haine, des prières de remise en question de l'amour de Dieu. Où es-tu, Seigneur? Tu ne m'entends plus? Tu dors? C'est très fort et cela peut être dur à entendre, mais Dieu comprend notre humanité et nos douleurs. Il nous donne la pleine liberté d'exprimer nos douleurs, car il sait combien nous en avons besoin. Les freiner est un danger. Faisons donc comme Dieu, les amis. Écoutons sans jugement, mais avec compassion. Encourageons la personne à dire sa souffrance, non seulement à nous, mais aussi à Dieu, qui comprend. Et donc, il m'est arrivé, j'étais parti en Nouvelle-Calédonie, j'avais prêché sur la joie. Mais il pas mal de gens qui avaient cette idée de la joie, je dois la vivre aussi quand je suis dans la souffrance, il faut que je vive la joie, quoi. Une joie explosive, etc. Il y avait vraiment cette idée déformée de personnes qui pensaient que dans la souffrance, je suis censé danser, quoi. Mais attention à ça. Ce n'est pas ce que la Bible dit quand elle parle de joie, c'est l'espérance, la joie dans l'espérance de Christ qui revient. Une certaine joie qui est manifeste parce qu'on a un Dieu qui est présent, etc. On le verra dans quelques instants. Mais ce n'est pas forcément une joie explosive. La joie, c'est plutôt de se savoir avec Dieu, un Dieu qui a tout accompli en Jésus-Christ. Et encore, quand on parle de joie, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, pour revenir à pleurer avec ceux qui pleurent, soyons sensibles à celui qui souffre. Soyons pleinement présents, dans une écoute pleinement active. Et quand cela est possible, nous pouvons donner quelques mots d'empathie et de réconfort. Mais le but ici, c'est l'écoute. L'écoute. Troisièmement, prie avec elle. Jacques chapitre 5, verset 13 dit ceci: l'un de vous passe-t-il par la souffrance? Qu'il prie. La logique est très claire dans ce texte. Quand une personne souffre, il faut prier, chercher Dieu, lui demander son secours. Dans Luc chapitre 22, verset 32, Jésus a dit à Simon, son disciple: j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne vienne pas à manquer. Voilà une belle prière de Jésus pour son disciple qui va vivre un moment très difficile. L'arrestation de son maître et ami qu'il aime tant. Dans un moment très douloureux, une personne aura beaucoup de mal à prier. Je sais que des personnes ont réussi à avoir ce réflexe tout de suite dans la souffrance, dans des souffrances terribles, de prier beaucoup. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et dans le ministère pastoral dans lequel je suis, depuis ces quelques années que je vis dans ce ministère, j'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont plutôt dit qu'elles avaient du mal à prier. Leur vie de prière était difficile. Les personnes avaient du mal à trouver les mots ou n'arrivaient plus à prier. L'aide de ces personnes, que ces personnes ont trouvé, c'était de continuer à lire des psaumes ou à écouter des chants de louanges. Donc, c'est des choses qui les aidaient à se fortifier dans la foi. C'est d'ailleurs souvent ce que je recommande à des personnes qui souffrent. Écoute au moins des chants de louanges ou lis des psaumes, etc. Prier avec une personne qui souffre est vraiment important, vu qu'elle vit dans une période où la foi est ébranlée et où la vie de prière peut devenir difficile. C'est comme si nous prions à sa place, vous voyez ce que je veux dire. Et dans la souffrance, il m'est arrivé d'entendre des croyants bien intentionnés formuler une prière de foi, mais combien maladroite pour celui qui souffre. Voilà un exemple de prière. « Merci Seigneur pour la souffrance de mon frère. Tu fais concourir toutes choses à son bien. Ton plan se réalise parfaitement dans sa vie. Que ce soit l'occasion pour lui de te louer, de trouver en toi sa joie, la joie de ta présence et d'être un témoignage de ton œuvre auprès des autres. » Wouh ! Prier ainsi est juste, mais ce n'est pas le bon moment pour une personne qui vient de perdre un être cher ou qui vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'une maladie grave ou qui est totalement découragée. Louer Dieu, parler de joie, de témoignage aux autres, c'est vraiment pas ses sujets actuels. Pleurer avec ceux qui pleurent doit s'exprimer aussi dans la prière, les amis. Voici un exemple de prière. Dieu notre Père. Et bien sûr, quand on prie, c'est avec sensibilité, c'est pas avec un enthousiasme énorme. On est là avec la personne qui est dans un moment difficile. Et donc, avec sensibilité, Dieu notre Père, mon frère et moi-même, nous sommes dans la tristesse. Mon frère a besoin de toi. Je crie à toi pour lui. Viens à son secours, qu'il trouve en toi la consolation, la paix, la force dont il a besoin. Renouvelle sa confiance en toi. Agis. Délivre-le, je t'en supplie. Vous voyez ? Une prière qui rejoint l'autre et où on crie à Dieu avec l'autre. Alors attention à une autre chose. Une personne qui souffre ne voudra pas forcément prier avec nous. Il est donc important de de demander à la personne, est-ce que je peux prier avec toi maintenant ? Et ne soyons pas choqués si la personne ne le veut pas. Ce n'est pas le bon moment. Nous pouvons juste ensuite lui répondre, d'accord, que Dieu te fortifie, je vais prier pour toi. Et tenons ensuite notre parole, parce que la personne comptera sur notre fidélité dans la prière. Quatrièmement, offre tes services. Galates 5, verset 13, « Par amour, mettez-vous au service les uns des autres. » C'est quelque chose que j'ai vu dans cette église, des personnes qui servent les autres, qui sont dans la souffrance. Et c'est touchant. C'est vraiment touchant. Dieu nous appelle à nous servir les uns les autres. Une personne qui souffre aura besoin d'être aidée dans différents domaines. Tâches quotidiennes, tâches ménagères, faire le repas. C'est plutôt les femmes, c'est ça? J'espère que les hommes, vous faites le repas. Je me parle à moi-même. Faire des courses, garder les enfants s'il y en a. Et plein d'autres choses encore, des choses que la personne dans la souffrance n'arrivera plus à faire comme elle le faisait avant. Il arrive qu'on dise à celui qui souffre, et ce n'est pas une mauvaise chose, mais attention à cela, mais on peut dire cela, n'hésite pas à me demander ou à m'appeler si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit. C'est très sympa de dire cela, et je continuerai de temps en temps à le dire, mais il y a quelque chose à dire dans cela. Quand une personne passe par de terribles souffrances, et je parle bien ces souffrances extrêmes dont nous parlions tout à l'heure, enfin dans le sujet de ce matin, la personne peut avoir du mal à voir clair ses propres besoins, à les exprimer, avoir de la difficulté à exprimer ce dont elle a vraiment besoin, ou ne pas trouver la force tout simplement de demander. Et on connaît cela, hein, très souvent les personnes restent seules. Et donc il y a besoin d'être plus engageant dans cela. Et il est préférable de prendre l'initiative pour faire quelque chose d'utile. Cela demande de réfléchir à ce que nous aurions besoin si nous étions dans la même situation que l'autre. Nous pouvons aussi dire, je vais faire des courses. Aurais-tu besoin de quelque chose ? Je peux te ramener du pain si tu en as besoin. Cinquièmement, aide-la à voir Dieu dans sa souffrance. Le texte que je lis souvent à des personnes qui vivent de lourdes souffrances, c'est le psaume 23. Un psaume fort qui peut vraiment consoler dans la souffrance. Et le verset 4 dit ceci, qui est souvent le verset que je donne tout de suite. « Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. » Pour moi, c'est la plus grande consolation que la Bible nous donne dans la souffrance, la présence de Dieu. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Les épreuves de la vie et les souffrances extrêmes sont inévitables dans ce monde à cause du péché et des œuvres destructrices de Satan. Nous passerons tous un jour ou l'autre par la souffrance. C'est chose normale. Quelle que soit l'intensité de la souffrance, l'amour de Dieu n'a pas changé envers nous. Et ça, c'est important de le rappeler. Parce qu'il y a des personnes qui, dans la souffrance, se disent « Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ? Est-ce qu'il est en train de me punir ?» etc. Non. Non. Dieu ne promet pas dans cette vie, et c'est important de l'entendre, Dieu ne promet pas dans cette vie sur terre de nous délivrer de toute difficulté. Mais il nous promet sa présence pour les traverser avec sa force et sa paix. Il est tellement important de pouvoir communiquer à ceux et celles qui passent par la souffrance que Dieu est là. Il est possible de dire tout de suite à celui qui souffre que Dieu est présent. Il est avec toi dans ta souffrance. Mais soyons aussi sensibles à la personne car elle n'arrivera peut-être pas à comprendre, à l'entendre dès le début. Mais cela peut au moins être dit dans notre prière si elle nous donne la possibilité de prière, de prier pour elle, tout simplement d'affirmer dans notre prière Dieu, tu es présent avec elle, dans sa souffrance. Quand nous affirmons que Dieu est présent dans la souffrance, qu'est-ce que cela veut dire ? Nous devons l'exprimer l'expliquer, pardon, pour ne pas donner de faux espoirs. La présence de Dieu à nos côtés ne veut pas dire que nous allons sortir de tous les problèmes. Affirmer que Dieu est présent dans ma souffrance, c'est rappeler qu'il maîtrise toutes choses, qu'il ne laissera jamais tomber ses enfants, qu'il prendra toujours soin de nous, qu'il donnera surtout la force de traverser nos épreuves avec sa présence et sa paix. Nous sommes dans ce monde avec son lot de péchés et de souffrances, mais Dieu accordera toujours à ses enfants la force nécessaire pour tout supporter. Mais qui dit cela dit quand même que ce n'est pas un chemin sans larmes, un chemin sans combat dans nos pensées, sans doute. La foi va être ébranlée, mais Dieu restera toujours prêt à soutenir, aider, encourager et consoler. Donc, affirmer que Dieu est présent, c'est rappeler à l'autre l'importance de rester dans l'intimité avec Dieu. Nous devons aider celui qui souffre à tout faire pour rester en présence de Dieu. Tu as besoin de lui. La prière, la parole de Dieu, des temps d'écoute dans le silence, la louange, la communion maintenue avec les frères et sœurs dans la foi, toutes ces choses sont des armes pour tenir ferme dans les pires épreuves. Encourageons la personne qui souffre à se maintenir dans la présence de Dieu, quand nous voyons que c'est le bon moment pour le faire. Sixièmement, aide-la à mettre sa confiance en Dieu. Voici deux textes. Nahum, chapitre 1, verset 7. « Mais l'Éternel est bon, il est un sûr abri au jour de la détresse, et il prend soin de ceux qui se confient en lui. » Psaume 37, verset 5. « C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. » Aie confiance en lui et il agira. Ces deux textes sont très encourageants pour celui qui met sa confiance en Dieu. Il y a comme une récompense pour ceux qui osent mettre leur confiance en Dieu dans leurs épreuves. Dieu ne dépend pas de notre confiance pour agir dans notre détresse, mais nos petits pas de foi vers lui seront récompensés, car nous allons prendre conscience, plus en plus conscience de sa présence, de ses soins et de son action dans notre vie. Pour aider une personne à mettre sa confiance en Dieu, nous pouvons déjà prier avec elle, comme nous l'avons vu il y a quelques instants. Nous pouvons aussi oser lui poser la question, et au bon moment bien sûr, est-ce que tu arrives à faire confiance à Dieu dans ce que tu traverses? Et si la réponse est positive, nous pouvons tout simplement louer Dieu avec cette personne et demander à Dieu qu'il continue à fortifier sa foi. Et si la réponse est négative, nous pouvons prier avec cette personne que Dieu renouvelle sa foi. Une autre manière d'aider une personne à mettre sa confiance en Dieu est de l'encourager, quand cela est possible, bien sûr, à louer Dieu. Louer Dieu. Écoutez ce texte assez surprenant. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Donc vous imaginez des gens qui sont en prison, on vient de les mettre en prison, et se mettent à prier et à louer. Dans la louange, on entend vraiment le chant. Les autres prisonniers les écoutaient, donc ça veut dire que ce n'était pas tout doucement. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Waouh, quel miracle! On a envie de vivre ça, tout le temps, dans toutes nos situations. Dans ce texte, Paul et Silas étaient en prison à cause de leur foi. Dans une telle situation, ils ont fait une chose que peu de gens osent faire. Ils ont chanté des louanges de Dieu et il s'en est suivi des miracles. Mais je crois qu'il y a un autre miracle qui n'est pas écrit, j'ose le dire. Ils ont vécu quelque chose, la paix dans la souffrance, en empruntant le chemin de la louange. La louange fortifie la foi. Écoutez l'histoire que nous rapporte Alex Buchan, ou Buchan, je ne sais pas comment on dit ce nom, de la mission Portes Ouvertes qui aide les chrétiens persécutés. Donc, il mentionne des chrétiens persécutés. Et il dit ceci, « Il y a quelque temps, j'ai passé une semaine avec une évangéliste chinoise, bien connue et assez exceptionnelle pour son courage, les longues heures passées à prier à genoux, la simplicité de sa foi. » Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus frappé, ni ce qui a finalement transformé ma vie. ce qui m'a le plus impressionné chez elle et chez tous ceux qui étaient avec elle est qu'ils chantaient tout le temps des cantiques, je précise. Madame Yang chantait comme si elle était en présence du Seigneur. Chaque mot sortait de son cœur avec une totale conviction. Les larmes inondaient ses joues, ses mains levées vers le ciel, et elle battait la mesure sur sa hanche. Plus tard, je lui ai avoué l'avoir observé et je lui ai demandé « Pourquoi chantez-vous tant alors que personne ne vous écoute ?» Il faut oser poser une telle question. Et voici la réponse. « Une des belles choses de la vie chrétienne, me répondit-elle, est d'agir par obéissance, puis de passer le restant de sa vie à mieux comprendre pourquoi les commandements de Dieu sont bons. Chanter est un ordre. Dans les psaumes, nous sommes constamment exhortés à chanter les louanges de notre Dieu. Pourquoi ? C'est un mystère. En prison, je pouvais prier et lire ma Bible, mais rien ne m'encourageait autant que de chanter. Est-ce parce que le chant demande au corps tout entier de se concentrer sur la louange au Seigneur ? En tout cas, j'ai découvert que c'était essentiel pour garder un esprit positif. Voilà un témoignage fort, mais qui dit comment les chrétiens persécutés arrivent, malgré la souffrance, à tenir bon. Plusieurs rapportent de tels témoignages. La louange, les amis. La louange et la reconnaissance à Dieu ne sont pas juste pour les beaux jours, mais aussi pour les temps difficiles, dans les temps difficiles. C'est un remède puissant pour renouveler notre confiance en Dieu. En fait, exprimer notre louange et notre connaissance à Dieu nous permet de voir l'amour de Dieu, sa grandeur, sa grâce, sa fidélité, sa sagesse, et bien plus encore au sein de la souffrance. J'ai envie de dire, la souffrance est comme un brouillard épais qui nous empêche de voir les bontés de Dieu. Mais la louange permet d'enlever ce brouillard pour nous rappeler que Dieu est toujours là et qu'il prend soin de nous. La louange fait changer de perspective, et je l'ai souvent répété ce que ce frère a dit. Ne dis pas à Dieu que tu as de grands problèmes, mais dis à tes problèmes que tu as un grand Dieu. Même si l'élément de notre souffrance est bien réel et terrible, la souffrance elle-même peut diminuer quand nous sommes conscients, toujours plus conscients de qui est Dieu, et de ce Dieu qui est avec nous. Voilà pourquoi il est juste d'encourager une personne qui souffre à louer Dieu. Peut-être pouvons commencer à louer tout simplement avec elle. Mais là, comme j'ai dit au tout début du message, ça ne vient pas tout de suite. Hein. Il faut avoir beaucoup de sensibilité pour savoir à quel moment nous pouvons encourager la personne dans la louange. Mais la louange vécue au culte, les dimanches, peut être tellement bénéfique pour celui qui souffre. Et combien de chrétiens j'ai vu qui, quand ils sont dans la souffrance, ne viennent plus. Il y a un côté normal à ça. Mais j'ai toujours dit aux gens qui sont dans la souffrance, s'il y a bien un lieu dont tu as besoin, c'est celui-ci. Parce que le lieu ici, l'église, ce ne sont pas pour les gens qui ont des beaux smileys. Juste on vient avec nos smileys et en fait, à l'intérieur, on ne va pas. On vient tel que nous sommes ici. Je veux et je vois souvent des gens qui pleurent dans la louange, des gens qui sont touchés dans la louange. Eh bien, oui, on est là pour nous laisser toucher par Dieu. Et on en a besoin. On en a besoin. Donc j'encourage et je nous encourage dans la souffrance. Continuons à vivre la louange avec nos frères et sœurs. Tout en disant, c'est normal que des personnes qui sont dans la souffrance parfois, et voire souvent, ont besoin d'un temps où ils restent chez eux. Et moi, ça m'arrive souvent d'avoir des personnes au téléphone, je dis, c'est normal, reste encore chez toi, tu as besoin de temps. Il faut respecter les personnes par rapport à cela. Et une autre manière de faire, on l'a dit tout à l'heure, c'est de chanter les louanges de Dieu ou, si on n'arrive pas à les chanter pour l'instant, d'écouter à la maison. On peut écouter plein de louanges par nos smartphones, lecteurs MP3, ordinateurs, etc. On peut écouter ça partout, dans le RER et même dans le temps de grève. Hein. Même pendant les grèves, on peut écouter ça. Normalement, les lecteurs MP3 ne sont pas en grève. Ils n'ont pas le droit. Septième et dernier point, je vous rassure, c'est le dernier point. Accompagne-la jusqu'au bout. Un texte qui m'a toujours touché, c'est le Proverbe 17, chapitre 17, verset 17. Un ami aime en tout temps ou en toutes circonstances. Et quand survient l'adversité, il s'en va. Non, il se révèle un frère. Il est là, il est présent. Quel texte ! Ce texte rappelle l'importance d'avoir de vrais amis. Des personnes qui ne nous lâchent pas dans les temps d'adversité et sur qui nous pouvons compter en toutes circonstances. Je ne parle pas ici d'amis Facebook, mais de vrais amis. La personne qui souffre ne doit pas être seule. C'est ce que je dis tout le temps aux personnes qui souffrent dans l'église. Et elles vont se reconnaître, toutes les personnes qui souffrent ici m'ont tout le temps entendu dire « Est-ce qu'il y a dans l'église une personne avec qui tu peux partager ta souffrance ?» Pleurer, prier, être encouragé. J'ai tout le temps dit ça. En tout cas, s'il y a des gens à qui je n'ai pas dit ça, c'est qu'il y avait un problème. Ou peut-être que je savais que tu avais déjà un ami. Un ou une amie. Une personne dans la souffrance ne doit surtout pas rester seule et s'isoler. Pour s'en sortir, elle a vraiment besoin des autres. Et ça demande parfois de le reconnaître. Nous devons tout faire pour aider une personne qui souffre à avoir une ou deux personnes avec qui elle peut partager, pleurer, être encouragée. Accompagner une personne dans la souffrance jusqu'au bout, c'est veiller sur elle jusqu'à ce qu'elle aille bien. Prendre soin d'elle jusqu'à ce qu'elle se relève. On veut voir la fin. On n'est pas juste à aider et puis après, on laisse la personne s'en sortir tout seul. On dit que pour l'acceptation d'une maladie grave ou la perte d'un être cher, une personne passe par 5 étapes. Je ne vais pas les détailler, mais je les dis rapidement. Choc et déni, colère, marchandage, dépression et enfin acceptation, c'est-à-dire elle accepte enfin sa situation et elle commence à s'ouvrir aux autres, etc. On dit que pour l'acceptation, par exemple, d'une maladie, par exemple, pour une personne qui a perdu un être cher, on dit qu'elle a besoin de 1 à 5 ans pour faire son deuil, suivant la relation qu'elle a eue avec le défunt. Mais quand on dit 1 à 5 ans, il y a des choses qui se réveillent quand même après ces années. Hein. Même si la personne, pendant un an après, elle va mieux, il peut y avoir 2 ans ou 3 ans après des choses qui se réveillent. Des gens, même 10 ans après, sont mis à pleurer. Encore le décès de quelqu'un, d'un être cher. Et donc, il y a des choses qui se réveillent parfois des années après. Et parfois aussi, ça arrive des personnes qui n'ont pas eu le temps, n'ont vraiment pas fait le deuil, se sont retenues, et des années après, ça ressort. Et d'un coup, c'est dépression, etc. Donc, pour rappeler encore l'importance de vivre son deuil. On ne peut donc pas amener une personne qui est gravement malade à vite relativiser. De même, on ne peut pas sortir tout de suite une personne rapidement de son deuil, enfin, faire son deuil rapidement en 2 secondes. Cela prendra du temps, il faut donc beaucoup d'empathie, de compassion et de patience pour aider. Et il faut accepter que parfois nous allons faire des bêtises. Ça fait partie aussi de cela, et où, voilà, on aura fait une chose, mais ça n'aura pas forcément encouragé l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il nous faut arrêter. Avant de conclure, j'aimerais vous raconter une histoire qui m'a touché et qui, pour moi, est un fort encouragement à continuer, à penser à celui qui souffre bien avant sa souffrance. À la mort de son père, un jeune homme reçut de la part de son église locale plusieurs témoignages d'amour. Invitation à dîner, priorité sur les listes de prières de chacun, messages, courriers électroniques, cartes, lui exprimant beaucoup de sympathie. Après une semaine ou deux, la générosité commença à s'atténuer, comme cela se produit souvent. Les rares personnes qui demandaient toujours au jeune homme de ses nouvelles lui ont paru exceptionnellement attentionnées à son égard. 1 an plus tard, à la date anniversaire du décès, un ami de l'église, lui laissa ce message au téléphone. « Je me souviens que ton père est mort ce jour même, l'an dernier. Je voulais juste que tu saches que je pense à toi et je prie pour toi. Je prie qu'aujourd'hui, les souvenirs que tu auras de lui puissent te procurer une bénédiction. » Le jeune homme fut stupéfait. Cet appel l'a transformé, réconforté et encouragé. Écoutez bien la suite. En outre, il s'est engagé à veiller sur les autres à long terme. Quand on le fait pour une personne, c'est contagieux. L'Église doit le vivre, les amis, et ça doit devenir contagieux. Pensons aux autres à long terme. Ils en ont tant besoin, dans la souffrance. Je vais conclure en rappelant les points que j'ai donnés. Comment encourager une personne qui souffre? J'aurais pu encore dire beaucoup de choses, mais il nous faut donner quelques points et pas être exhaustif, sinon ce serait un peu compliqué. Premièrement, sois convaincu que Dieu peut réconforter cette personne. Deuxièmement, pleure avec elle. Ensuite, prie avec elle. Offre tes services. Aide-la à voir Dieu dans sa souffrance et à mettre sa confiance en Dieu. Et enfin, accompagne-la jusqu'au bout, à long terme. Je vais prier. Dieu notre Père, merci d'être ce Dieu consolateur qui réconforte toujours tes enfants qui passent par la détresse. Tu connais les souffrances que peuvent traverser plusieurs ici. Je te demande ta consolation maintenant. Agis par ton esprit. Quand nous passons par la souffrance, aide-nous à aller à toi, à venir à toi, pour trouver en toi notre réconfort. Dans nos souffrances, aide-nous à nous maintenir dans ta présence. Aide-nous à aider les autres, à aider ceux qui souffrent. Garde-nous convaincus que tu peux réconforter dans toutes les situations. Apprends-nous à pleurer avec ceux qui pleurent, à prier avec eux, à les amener à voir que tu es présent et à te faire confiance. Que nous soyons sérieux dans ce ministère pour vraiment accompagner jusqu'au bout ceux qui ont tant besoin de ta consolation. Prions que ce que nous voulons mettre pleinement, vivre pleinement, devienne contagieux dans cette Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen.